Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant festival international du film de fiction historique avec Costa Gavras. Bonjour Grégor.
Bonjour.
Et bonjour Hugo.
Et bonjour.
Si je te dis Costa Gavras, qu'est-ce que ça t'évoque ?
Ah, ça m'évoque un sacré personnage qui a fait un nombre de films incalculables et qui en a été présent aussi dans pas mal. Pour présenter un minimum aux auditeurs qui est cette personne, Costa Gavras, c'est un pseudonyme, son prénom est Constantinos, c'est un cinéaste franco-grec, il a aujourd'hui 91 ans, c'est pas dire. Dans quel film on peut le retrouver ou dans quel film il a pu faire ? Dans les principaux, si vous les connaissez, il a fait Z en 1969, Missing en 1982, L'aveu en 1970, État de siège en 1972. Pour les personnes qui ont vu un film récent, c'est Adult in the Room en 2019. Et pour le film que nous allons parler aujourd'hui, c'est Amen, sorti en 2002.
Oui, parce que le Festival international du film de fiction historique, eh bien, c'est avant tout des films très très forts, dont Amen, qui a vu un dossier pédagogique qui a été mis en place, qui a été étudié par les scolaires, qui a apporté énormément de choses. Et j'ai tenu à en parler avec ce grand monsieur, Costa Gavras. C'était vraiment une rencontre hors du commun. 91 ans, un homme qui s'est déplacé, qui a été à la rencontre des gens, qui a été d'une générosité incroyable. Je vous propose d'écouter son interview.
Nous sommes au Festival international du film de fiction historique. Et l'histoire, c'est important pour vous, je sais.
L'histoire, c'est important. Et je disais aussi tout à l'heure à Étienne Garcia que je suis venu surtout pour les 10 ans. Et pour lui, parce que je les connais très bien depuis les débuts. Mais mes films à moi, ils sont des films historiques, mais pas des fictions.
Oui.
Mais il n'y a qu'une fiction. On s'amusait avec ça. Oui, je suis très content d'être venu parce qu'il fête les 10 ans. Et que je sais que le travail que je suis depuis longtemps, le travail qu'ils font, c'est formidable. Voilà. Que les jeunes puissent voir des films, que les jeunes puissent dialoguer ou écouter des acteurs qu'ils connaissent que par le téléphone. Oui. Tout d'un coup, ils voient que c'est des personnes. Ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des choses exceptionnelles, c'est aussi des personnes qui peuvent être eux-mêmes à leur place. Parce que ça ne passe pas du travail, ça ne passe pas de peine, ça ne passe pas des réussites, mais aussi des échecs. Donc c'est des hommes et des femmes. Et ça, c'est important pour un festival, beaucoup plus que le prix. Alors, ils veulent me donner un prix, moi je vais bien, mais enfin bon.
Et oui, il y a un prix d'honneur que vous allez recevoir ce soir pour votre travail. Voilà.
C'est un grand plaisir, absolument. Mais essentiellement, moi, je voulais témoigner mon amitié et mon admiration à Étienne Garcia, pour ce qu'ils font ici, et puis à tout son groupe, évidemment, à tous ses collaborateurs et collaboratrices. Oui.
Je voudrais revenir en arrière, je voudrais revenir sur le film Amen, qui est toujours vu en scolaire, avec un dossier pédagogique qui tourne. Ce film est toujours d'actualité et montré à ces jeunes. C'était important pour vous, ce devoir de transmission par rapport à ces témoins ?
C'était important et ce n'était pas un film contre l'Église, contre le christianisme. C'était un film sur quelqu'un qui ne s'est pas comporté comme un bon chrétien, voilà, et qui était le chef du christianisme, voilà, à mon avis. Et c'est vrai qu'il y a d'autres serviteurs du christianisme et de l'Église qui ne sont pas à la hauteur de leurs tâches, voilà, et de leurs responsabilités, voilà. Et il fallait montrer ça. Il fallait pas les considérer comme des saints, comme des gens qui connaissent toutes les vérités, etc. Ne pas se soumettre entièrement, mais avoir un esprit critique, une bonhomie bien sûr, une acceptation, mais critique toujours. C'est librement. C'est ça qui, à mon avis, est important dans la vie. Et moi, j'ai découvert ça, parce que je venais d'un pays où on n'avait pas le droit de critiquer qui que ce soit. Ni son prof qui vous donnait des baffes quand on n'était pas content, ni son pope qui, lui aussi, ne se comportait pas très bien, rien. Tout le monde était sain, et il fallait être soumis. Et bien, je suis arrivé ici, et j'ai découvert que ce n'était pas comme ça, la vie. Qu'il fallait faire Il faut être libre soi-même et se comporter librement et accepter la liberté des autres. Ça aussi, c'est important.
Ça, c'est très important.
Voilà. La liberté et la critique des autres sur vous. Voilà. Parce qu'au bon moment, on n'accepte pas.
Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui a été très important pour le film Napoléon, pour montrer justement cette figure de l'histoire.
Écoutez, Napoléon, moi, j'ai connu Napoléon, ou le film, à l'IDEC, à l'école du cinéma. Parce que mon prof de photo, c'était Montviller. Montviller, c'était un des grands chefs opérateurs de Abel-Gance. Et il nous racontait comment il faisait la folie de Belgans. Il nous montrait aussi des images de lui-même à cheval avec sa caméra et la manivelle pour filmer des autres, etc. Donc j'étais passionné. Et après, par la suite, Langlois à la Cinémathèque montrait ce qu'il trouvait. Il avait trouvé des morceaux, il les a collés ensemble, il les montrait. Et puis un jour, quand j'étais président à la Cinémathèque, la première fois, il y a Kevin Brandon qui est arrivé à Paris avec son film sur Napoléon. Le formidable qu'il a fait d'à peu près 1h45, quelque chose comme ça. Et nous l'avons montré. Nous l'avons présenté à une grande salle à Paris, 1000 places, pendant 3 jours. C'était la folie. Et j'ai découvert cette espèce de moitié du Napoléon. Parce que c'était pas... Et à l'époque, à la Cinémathèque, on ne pouvait pas s'en occuper parce qu'il y avait d'autres choses à... arrangé, ça allait très mal. Bon. Et puis, quand on m'a rappelé, une des premières choses que j'ai dit, il faut qu'on parle de Napoléon. Il faut. Et on a commencé, il y a 14 ans, 15 ans même, on commençait à chercher, parce qu'il fallait trouver les moyens de faire le Napoléon qu'Abel-Gance a voulu faire, qui était celui qui l'a envoyé en Amérique. 7 heures. Après, l'enfant a fait 9 heures, etc. Il a réduit à 7 heures.
Il a réduit.
C'est ça. Et il l'a envoyé à Goldmayer, en Amérique. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une version de 1h45, en le coupant complètement, en coupant le négatif, etc. Terrible. Et on a eu la chance, en fouillant la Cinémathèque dans nos archives, et dans les archives que nous avons déposées à Belgance, de trouver la liste de montage de ces 7 heures. Voilà. Et j'ai dit, voilà, il faut le faire. Et puis, on a commencé à travailler. On a pris un spécialiste de Napoléon, qui a commencé à travailler, et puis un musicien, parce qu'il fallait faire la musique.
Eh bien oui.
Il est vrai que Kevin Brandon, il avait... un musicien pour tout le film. Mais nous, on avait 7 heures. Et quand je parlais à un ou deux musiciens avec qui j'avais travaillé, il me dit, 7 heures de musique ? Mais il me faut 3 ans. Et on m'a dit aussi, pendant 3 ans, m'a dit un d'entre eux, le plus important, il m'a dit, je vais perdre tous mes clients.
Et oui.
Il ne travaillait plus avec personne. Bon. Et il a eu la raison de chercher un compositeur qui connaissait parfaitement la musique classique, etc. Et il a fait une très belle musique. Voilà, ouais. Pour cette heure, il existe maintenant, on va le présenter un peu partout.
Oui, il tourne un peu partout.
Il tourne partout et ça va continuer.
Il est coupé, on n'a pas les...
Il est coupé en deux. Nœuds.
Voilà,
deux. Bon, c'est 3h30 et 3h30. Mais à la Cinémathèque, on l'a montré entier aussi.
C'est vrai ?
Il y a des gens qui sont restés. On va le commencer bientôt, pendant le week-end, de le montrer
à marathon.
7 heures. À marathon.
7 heures, 7 heures de film.
Avec 2 arrêts. Pour l'eau et pour pipi.
Nous, on a eu la chance de le voir ici en deux parties.
En deux parties.
Voilà, en deux parties.
C'est un beau film. Hein.
Très beau film.
Une modernité,
très bien amené,
une modernité extraordinaire.
Franchement, merci beaucoup
d'avoir participé. Merci beaucoup. Non, c'est toute l'équipe de la Cinémathèque, et puis Mouillé, et puis tous ceux qui ont travaillé. Quoi.
Et c'est vrai que c'est, pour vous, j'ai l'impression que vous êtes que le cinéma est porteur d'espoir et d'histoire.
Oui. C'est essentiel. Essentiel parce qu'on voit l'autre. Que ce soit chinois, que ce soit américain, que ce soit on voit l'autre. Et on peut avoir un point de vue. Mm-hmm. Et puis on peut avoir un point de vue et sortir de soi-même. Sortir de son petit cycle dans lequel nous vivons, surtout quand on est jeune. On tourne un peu en rond presque, parfois, avec les études, la famille. Tout, on voit l'autre. C'est ça, le cinéma. C'est une sorte de libération, hein, d'une certaine manière. Voilà. Mais pour s'amuser aussi, parce que je crois beaucoup qu'on s'amuse au cinéma, ou qu'on soit triste, enfin, que ça doit avoir des fonds sentiments, parce qu'on se découvre aussi soi-même. On dit, ah, j'ai aimé ça, ça, j'ai pas aimé. Donc, c'est cette relation-là qu'on a avec soi-même. J'aime ou je n'aime pas.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes derrière la caméra, que vous avez l'œil et que vous regardez les personnes
Vous savez, on est monomaniaque hein, quand on est derrière la caméra, parce qu'on filme. Il faut que l'acteur soit bon pour cette scène. Il faut qu'après, voilà, c'est ça. Voilà la caméra. Et c'est ça qui est essentiel, parce que c'est des petits bouts, pas petits bouts. Oui. Comme quand on écrit une lettre ou un livre, c'est phrase par phrase. Et la caméra, c'est phrase par phrase, parfois mot par mot. C'est ça. Donc, il faut choisir les bons mots, donc la bonne place de la caméra, la bonne... Voilà.
C'est vrai que c'est important pour... C'est ouais.
Voilà. Mais l'ensemble, on pense de l'histoire, bah, quand on écrit le scénario et quand on parle avec les acteurs, etc. Donc, on essaye d'avoir la vision de l'ensemble.
Vous avez un film qui arrive, Le Dernier Souffle, qui va être présenté.
Le Dernier Souffle. Que je suis curieux, inquiet, pour la réception qu'il va avoir. Voilà.
C'est d'après, c'est pas un film. C'est d'après un livre.
C'est d'après un petit livre, oui, qui a écrit un médecin qui s'occupe, qui a créé et s'occupe d'un des soins palliatifs, d'un centre de soins palliatifs. Et Régis Debray, ils l'ont écrit ensemble. Et c'est, je suis voulu faire un film très émouvant. C'est ce qui va nous arriver à tous. Et comme je vois, je dis tout l'horizon qui s'approche oui. de plus en plus de moi. Bon, il faut savoir comment ça se passe, comment ça va se passer, comment ça doit se passer. Voilà. Et là, je pense qu'on n'est pas préparé du tout. On est terrorisé.
Oui.
On nous apprend à être terrorisé, et on est terrorisé soi-même. Et si je fais ce film, c'est parce que j'avais un parent de famille, de la famille française, qui il était assez vieux, qui allait mourir parce qu'il ne sortait pas. Il disait ne me laissez pas partir. Chacun. C'est tellement émouvant, mais en même temps terriblement humain. Et non, personne ne peut rien. Donc il faut apprendre.
À laisser partir.
À bien finir. Mmh. Voilà. Et ça dépend soit de soi. Il faut l'accepter, ça.
À accepter la mort.
Bien sûr.
La fin du...
Le plus tard possible, ouais. évidemment.
La fin du chemin.
La fin du chemin, qui est pour tout le monde. Personne n'échappe. Et je dis souvent, s'il y en avait un qui échappait, moi, je n'accepterais jamais ça.
Vous avez un très beau casting.
Oui.
Qui vous entoure.
Et ils sont formidables. Ils sont très bons. Et voilà. Et les touches de bois.
Là, ça arrive, là. Là, ça...
Ça arrive la semaine prochaine.
La semaine prochaine, hein, ça y est, c'est...
Mercredi.
Je sais que vous aimez cette transmission auprès des jeunes générations, que vous avez aussi ce devoir, cette envie.
Oui, je vous disais, c'est... Moi, j'ai découvert les choses, pas au cinéma grec où j'étais, oui, j'ai découvert des choses au cinéma quand j'étais en Grèce encore, j'ai découvert le monde quand oui. je suis arrivé ici. Et j'ai vu des films ici, que ce soit à la cinémathèque, que ce soit dehors, des films qui venaient de partout. La cinémathèque, l'anglois, nous montrait des films japonais avec des sous-titres russes.
Oui.
Alors, je disais, mais quoi ? Et puis après, il fallait comprendre. Et on discutait entre nous après. Il disait, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? On refaisait le scénario. C'était des vraies blessons de scénario, finalement. Donc, la découverte de cet apprentissage du monde. Et c'est le cinéma qui peut nous l'offrir. Les livres aussi, mais ce n'est pas la même chose. La musique aussi, d'une autre manière. Mais le cinéma est tellement direct.
Mmh. J'aimerais savoir quel est le dernier film que vous avez vu et qui vous a touché, qui vous a pris au cœur.
J'en vois plusieurs, vous savez. Mmh. Je pense toujours à Napoléon.
Oui, bon, je suis tout à fait d'accord.
Non, parce que je me dis que quand on dit j'aime tel film ou tel film, tout d'un coup on a l'air d'écarter les autres. Mmh. J'étais dans une rencontre, parce qu'ils ont passé à Budapest, ils ont passé Music Box. Et après, quelqu'un disait, citait que le plus beau film du monde, le plus beau film du monde, c'est un film de Hitchcock, enfin, qui a été décidé par les Américains. J'ai dit, mais il n'y a pas le plus beau film du monde. Oh, comme on n'y a pas la plus belle femme du monde, c'est pas, on ne sait pas. Parce que si on fait ça, on dira demain qui est la plus belle, la plus belle peinture du monde, le plus beau livre du monde. Nous, ce sommes là. C'est pas possible. Donc, c'est pas le plus beau film du monde. Donc c'est pour ça que je me fie toujours de... J'ai vu les films de Coppola, qui était une sorte de production colossale, avec des images formidables, avec des idées partout formidables, etc. Je l'ai dit après, j'ai dit qu'il a fait une production énorme avec des images, si je vous dis, mais je n'ai pas été capté. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai l'occasion de le voir. Je n'ai pas été capté.
Je ne l'ai pas encore vu encore.
Et pourtant, on voit la richesse, pas d'argent, mais de pensées, mais la richesse d'idées qu'il a mis partout. J'avais envie de l'aimer. Je n'ai pas réussi de dire, voilà, c'est ça. Et ça m'a beaucoup embêté. Et ça m'a toujours embêté aussi d'avoir lui parlé après, parce que je l'ai vu après, on a discuté, etc. J'ai dit, mais il a fallu aussi avoir une énergie formidable pour faire à son âge un tel colosse. Parce qu'il fallait être dans des décors différents, sans arrêt. Alors, c'est pour ça que je vis de dire, Voilà, j'ai aimé ce film. Voilà, disons que je mets le devoir, je mets voir le film de Coppola.
Merci voilà. Beaucoup en tout cas, merci pour ce moment.
Merci à vous.
On parle à la fin de son dernier film qui va voir le jour en 2025, Le Dernier Souffle. Et c'est un film qui va être présenté au festival San Sebastian et on l'attend avec impatience parce que c'est avec Denis Podalydès, Cadmerade, Charlotte Rampling et Marilyn Canto. Entre autres, c'est une très très belle distribution d'après l'ouvrage « Le dernier souffle » accompagné la fin de vie de Régis Debray et Claude Grange. Moi je dis ça, ça donne le ton et il nous en a parlé un petit peu à la fin de l'interview. C'est vrai que je lui ai parlé beaucoup d'Amen et je vous propose de découvrir de quoi ça parle.
Amen, c'est un film qui parle de la Seconde Guerre mondiale. En Allemagne du coup, Kurt Gernstein, médecin en poste à l'Institut d'hygiène de la Waffen-SS, devient le superviseur de l'approvisionnement en gaz Zyklon B des camps de la mort nazie. De passage à Auschwitz, il découvre horrifié la terrible réalité des chambres à gaz.
C'est un film très glaçant, mais très vrai. Et ça ouvre des portes. Et c'est pour ça que c'est étudié par les scolaires. Et ce film est à retrouver sur Canal VOD. Voilà, si vous avez 2,99€, vous pouvez le regarder. Franchement, c'est un film à vraiment voir.
Il est adapté de la pièce de théâtre Le Vicaire.
Costa Gavras était présent à la cérémonie de clôture du Festival international du film de fiction historique. Et c'est des moments très forts parce qu'il a retrouvé Julie Gayet. Et Julie Gayet, quand elle était plus jeune, elle a fait figurante dans l'un de ses films. Et c'est vraiment un très grand souvenir pour elle. Et de retrouver Costa Gavras, eh bien, ça lui a donné encore plus d'impact. Et c'est des moments comme ça qui sont très très forts. C'était Chaud Devant, Festival international du film de fiction historique avec Costa Gavras. Merci énormément à Monsieur Costa Gavras pour l'interview. Merci au Festival international du film de fiction historique de me permettre de faire ces interviews et retrouver prochainement Olympe, une femme dans la Révolution et le film Le Dernier Souffle en 2025. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black.